cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 14 octobre 1986.
Efficacité. dimension tout à fait différente. On dira le fatchéré et l'adjuré. Vous savez, il faut tout le temps y revenir. Vous avez là deux relations typiquement différentes. L'homme qui transforme la matière et qui fait une œuvre. L'homme qui rencontre l'homme. Parce que votre expérience humaine n'est pas une transformation de l'homme. C'est au contraire un amour. C'est en aimant. C'est la grande expérience de l'amour. Voyez, le travail me met dans le temps. L'amour me met au-delà du temps. Très important point de vue psychologique, ça. C'est dans ce sens-là que le travail me redonne un réalisme. Le réalisme du conditionnement du temps. Le conditionnement du temps et le conditionnement du lieu. Puisque l'univers, le lieu dans lequel je me trouve, la matière liée aux deux, les deux grands conditionnements, le lieu et le temps. Et le travail est lié à ça. Tandis qu'au contraire, l'amour est au-delà du temps. Et l'amour est au-delà du lieu. Ça joue, mais c'est au-delà du lieu. Même si on se sépare, on continuera de s'aimer. Mais si la matière n'est plus là, on ne peut plus travailler. Il y a une dépendance de l'univers qui se fait dans le travail. Et il y a un au-delà de l'univers qui se fait dans la rencontre avec l'homme. C'est l'homme où je comprends que découvrir l'homme, ça me met au-delà de l'univers. C'est vrai, l'amour est au-delà de l'univers. L'amour est conditionné par le temps, il est conditionné par le lieu, mais il est au-delà. Je ne dis pas que l'amour est dans l'éternité. Ce ne serait pas juste de dire que j'ai l'expérience de l'éternité parce que j'aime, mais j'ai l'expérience d'un dépassement, donc de quelque chose de transcendant. La matière a aussi quelque chose de transcendant. Mais c'est un infra-transcendant, tandis qu'ici, c'est un supra. Puisque la matière, je la domine, mais je la domine jamais totalement. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de transcendant dans la matière. La matière, ça peut toujours craquer. Vous ne pouvez jamais être sûr. Jamais. Il y aura toujours dans la matière une indétermination. Il y a suffisamment de détermination pour que ça stabilise. Mais il y a toujours une possibilité de craquer. C'est dans ce sens-là que la matière peut engendrer l'angoisse. Tandis que l'amour d'amitié, c'est tout à fait différent. L'amour d'amitié n'engendre pas l'angoisse. L'amour d'amitié engendre au contraire ce dépassement à l'égard du temps et du lieu. Or l'angoisse, c'est lorsque il y a le gouffre. C'est l'infini dans le temps, c'est l'infini dans le lieu. Il y a deux espèces d'angoisse dans les deux conditionnements. L'angoisse qui provient de l'infini du temps et l'infini du lieu. Parce que c'est la transcendance de la matière. Mais une transcendance abyssale, c'est un abîme. Mais c'est important de saisir ces deux. Et c'est pour ça que c'est le travail qui me permet de sortir de l'angoisse. Parce que par le travail, je me remets dans le lieu et le temps. Je considère le conditionnement. L'amour ne m'angoisse pas. Mais c'est plus difficile de retrouver l'équilibre par l'amour. Alors est-ce que l'amour est source d'angoisse? Ça serait intéressant de se poser la question. Dans la mesure où il y a quelque chose de transcendant, il peut y avoir. Alors, c'est un amour qui perd son réalisme. Parce que la rencontre de l'homme avec l'homme, Troisième expérience, la coopération. Qui implique confiance et efficacité. Donc, qui implique fat gérer et at gérer. Il y a les deux. Dans toute coopération. Vous n'avez qu'à saisir les manques de coopération. Ça peut provenir philosophique. là une présence invisible qui te dépasse. C'est une présence. Ce n'est pas directement une expérience de Dieu. Alors ça, il faut creuser. Mais voyez, s'il y avait une expérience directe de Dieu, il y aurait immédiatement une théologie. J'essaierai de comprendre ce qu'est ce Dieu que j'expérimente. J'expérimente quelque chose de sacré, quelque chose qui me dépasse. Peut-on commencer la philosophie par autre chose que ces trois expériences? C'est-à-dire en reprenant l'expérience première. Yeah. comprenez, c'est nécessaire de connaître la matière pour elle-même. Un véritable artisan, un véritable artiste, quand il transforme la matière, il veut connaître la matière au-delà de son travail. Et autant que possible, il aime de la travailler, de la connaître avant son travail. Le travail lui donnera une connaissance et une autre connaissance. Pourquoi ? Parce que la matière est toujours irréductible à la transformation que je la fais subir. Il y a donc quelque chose de la matière que je dois connaître pour elle-même. Et c'est ça que j'appellerai la philosophie de la matière. Connaître la matière pour elle-même sans la transformer, c'est une connaissance spéculative. Vous voyez, là, je vois les limites de l'idéologie marxiste. L'idéologie marxiste veut connaître la matière uniquement par le travail, uniquement par la praxis. Alors qu'il faut comprendre qu'il y a une connaissance de la matière qui va au-delà. Parce qu'évidemment, dans la philosophie marxiste, il n'y a pas une distinction entre connaissance pratique et connaissance spéculative. Il n'y a qu'une connaissance pratique dans toute pensée dialectique à base hegelienne. Il n'y a plus de distinction entre le pratique et le spéculatif. Or, je dois retrouver cette distinction qui me semble capitale. Parce que je peux connaître la matière de deux façons. La matière et l'univers. Je peux connaître l'univers et la matière de deux façons, en la transformant et en la connaissant pour elle-même. Et en la connaissant pour elle-même, il faut la toucher, il faut la sentir, il faut la voir. C'est ça la connaissance spéculative. Et à partir de là, j'ai donc toute une philosophie que d'une façon classique on a appelée philosophie de la nature. Mais il faudrait peut-être dire philosophie de la matière. Et dans la philosophie de la matière, discerner les déterminations première. Et les déterminations premières me mettraient en présence de la nature. La nature, ce sont les déterminations premières de la matière. La nature, matière, la nature, forme. Et comme c'est très usé, il faut peut-être reprendre ce langage particulier pour découvrir ce qu'il y a de particulier dans ces déterminations tout à fait premières. La philosophie éthique, je vous l'ai dit tout à l'heure, la philosophie éthique implique la connaissance de l'âme. Philosophie de l'âme. Philosophie du vivant. Si je veux aller jusqu'au bout dans la connaissance de l'amour d'amitié, je dois dépasser la connaissance éthique pour trouver le fondement de la connaissance éthique. Et ceci, c'est très net, parce que l'amour d'amitié, si puissant qu'il soit, ne domine pas la mort. Il y a la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort ? La mort ne peut se comprendre qu'à partir du vivant. ce que c'est. Il faut essayer de comprendre d'une façon positive ce qu'est la mort par la philosophie du vivant. Donc vous voyez comment l'éthique fonde la philosophie du vivant. Puis alors, la dernière partie, qui est très curieuse, la philosophie du bien commun va me poser le problème du bien absolu. De l'être premier. Sixième partie de la philosophie. Alors, je peux aborder ce problème de façon un peu différente. C'est l'intelligence liée L'homme est une personne religieuse. Jugement de sagesse.